bruit de vestiaire sous la couette.
Ah, sous la couette! Eh, sous la couette! Sous la couette!
C'est fini, oui?
Avec Sébastien Barberon.
D'ailleurs, il déteste le sport. Il préfère s'enfermer des heures au cinéma à s'esquinter les yeux.
Dans cet épisode numéro 3, et comme à l'accoutumée, c'est une histoire que nous allons vous raconter, ou plus exactement, celui dont c'est l'histoire la racontera lui-même, parce qu'après tout, il est bien assez grand pour le faire, et puis c'est la sienne d'histoire qu'il en soit donc responsable. Mais avant de faire débarquer ce personnage entre vous et moi, je ne résiste pas à la bien modeste tentation de bafouiller les premières répliques de ladite histoire. Il était une fois, le 22 décembre 88 à Besançon. Il était une fois, quelques jours avant Noël donc. Il était une fois un type de 22 ans qui arrivait du Burkina Faso et qui se prenait pour un cadeau, peut-être. Cadeau pour son étudiant de frère, sans doute déjà installé dans cette même ville, et avec lequel il entretenait alors de longs et réguliers échanges téléphoniques. Oh, c'était pas le seul frère qu'il avait, parce qu'il en avait encore quatre autres, sans compter ses deux sœurs et ses commerçants de parents. Il n'était donc pas seul, ce jeune homme. Et il n'était pas triste non plus. Et il n'était pas ceinture jaune, mais noir déjà, de karaté, eh ouais, ce baroudeur de tatami, qui, cinq ans après, c'est-à-dire en 1993, et sans doute parce qu'il était un peu habile avec ses mains et avec ses pieds, est sacré champion de France de la discipline, bah, toujours de karaté, en solo et en équipe. Et alors là, on lui serre la paluche. On le regarde, on l'écoute le champion, on le met dans la lumière, sous la lumière, sur la lumière, enfin bref, on l'éclaire et il aime ça le petit gars. Manquerait plus qu'on l'appelle maître. Maître Ali, ben pourquoi pas. Mais je pourrais aussi raconter qu'entre-temps il a découvert frotter les Vesoul en Haute-Saône, histoire de faire des études de commerce, pour faire comme ses parents, tiens. Et puis qu'il est allé ensuite faire un tour du côté de l'IRTS. Bon bref. Des détails. Alors, il paraîtrait aussi qu'il soit animateur jeunesse aujourd'hui à la maison de quartier de Montrapon à Besançon. Bon, ça reste à vérifier. Il paraîtrait aussi qu'il soit blagueur de temps en temps, mais ça reste à vérifier. Il paraîtrait enfin qu'il soit entraîneur de karaté, mais ça aussi, ça reste à vérifier. Du coup, on est sûr de rien, mais nous choisirons de faire confiance à ce qu'il nous dira. Ali, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue.
Ah, je suis bien là.
Merci d'avoir répondu à cette petite invitation.
Ah ben c'est très intéressant de vous avoir en face de moi.
Est-ce que, Ali Hugo, est-ce que vous pourriez, pour démarrer votre portrait, qui a déjà un petit peu démarré avec ma légère introduction, est-ce que vous pourriez raconter la photo qui est posée juste à côté de vous, celle où on voit un jeune homme qui, semble-t-il, fait le grand écart?
Alors, ce jeune homme, c'est bien moi. C'était à mes 18 ans, donc au stade municipal de Ouagadougou, au Burkina Faso. Je venais d'avoir 18 ans, et c'était un dimanche, et j'étais avec mon cousin. Très tôt le matin, on était debout, on chahutait. Après, lui me dit, moi je vais aller courir, et puis on pourra peut-être jouer avec les grands. Et les plus grands, parce que les plus grands, c'est ceux-là qui ont deux fois notre âge, qui n'étaient pas approchables. Sauf dans un cadre peut-être de jeu. Et donc du coup, on s'est dit, on va jouer. On va jouer à quoi? Mais on n'avait pas de ballon, on n'avait rien. Bah, lui, il court. Donc j'ai dit, écoute, on va courir. Et on a fait un tour, deux tours de terrain d'athlétisme. Après, j'ai dit, finalement, j'ai 18 ans. Bah, on fera 18 tours de terrain. Mais avant, bon, peut-être que je vais m'échauffer. Et pour montrer que j'étais un art martien.
Un art martien,
oui,
on dit comme ça.
Voilà, donc je pensais que j'étais un art martien, donc j'ai fait le grand écart. Et lui, il était impressionné. J'ai dit, voilà, maintenant on peut faire commencer le footing. Et j'ai fait pour la première fois 18 tours de terrain. Et après, je décréta que à chaque fois, le jour de mon anniversaire, je le fêterai au départ, en tout cas, avec le nombre de tours de stade d'athlétisme égal à mon âge.
Donc ça veut dire bientôt 55 quand même.
55 ans le 2 août 2020. Comme c'est un peu, des fois c'est un peu, les gens me trouvent un peu fou et malade de faire tout le temps la même chose. Bon, des fois je m'invente des choses. Donc peut-être que cette fois-ci je vais peut-être faire du vélo, 55 km de vélo. Mais ça me tente quand même de trottiner autour pour dire que je suis encore en vie.
Et le grand écart aujourd'hui, c'est toujours valable aussi?
Le grand écart, il est toujours valable, mais je fais moins le malin. C'est-à-dire que je m'échauffe bien avant de le faire. Je suis moins démonstratif. Et je prends beaucoup de précautions. Mais tout ça, ça me renvoie à ce que j'étais. J'étais petit et j'y rêvais d'un jour. Je rêvais qu'un jour, j'allais être spécialiste de quelque chose. Parce que les études...
Peu importe de quoi, spécialiste
voilà,
de quelque
voilà,
chose.
Voilà, je voulais vraiment être... et ça, je le disais à mes parents, parce que les études... Je posais plein de questions, à quoi ça pouvait servir, les diplômes et tout ça. Je n'avais pas de réponse unanime. Il y a le tonton qui est docteur en mathématiques, qui va te dire, vraiment c'est sérieux les études, il faut aller le plus loin possible. Minimum c'est bac plus 10. Je ne savais pas ce que c'était. Et mes parents commerçants, qui eux, bon, ils voulaient absolument que tu fasses plus que mieux qu'eux. Et d'avoir des diplômes, c'est prestigieux. Et puis voilà. Donc moi, j'étais persuadé que... Pour moi, je ne comprenais pas tout ça, mais je me dis, il fallait absolument que je sois expert ou expérimenté dans un domaine. Parce que je n'ai vraiment pas envie de balader ma vie dans la tête des aînés et des anciens qui me décrivaient vraiment quelque chose que je ne comprenais pas.
Et du coup, c'est tombé sur le karaté. Alors pourquoi le karaté ? Ça aurait pu être la plomberie.
C'est sûr que ça pouvait être n'importe quoi. Mais en réalité, j'étais déjà passionné d'athlétisme, de cyclisme. Et voilà, j'avais l'impression que les grands me faisaient peur. Et pour chasser ma peur, je me suis dit, il faut que je fasse un sport de défense. Alors là, j'en mettrais peut-être j'en mettrais une petite torgnole à certains qui m'ont regardé de travers. C'était vraiment un esprit revanchard au départ. Et de peur, de se protéger de quelque chose. Et donc du coup, ne pouvant pas aller pratiquer du karaté, parce que le loisir pour mon père, ça n'existait pas. Parce qu'en fait, c'est travailler.
Et se reposer accessoirement de temps en temps.
Oui, si tu es fatigué, tu te reposes, mais il faut vraiment être travailleur. Travail mérite repos. Et accessoirement, salaire. Donc du coup, les temps hors scolaire, périscolaire, en dehors de l'école, entre 17h et on va dire 19h, 18h, 30, 19h, ils trouvent quand même des moyens de te trouver des répétiteurs en maths, en physique, qui sont là pour te faire vraiment la leçon, quoi. Et donc, il faut trouver le moyen de s'éclipser. Et donc pour moi, le sport, c'était un cadeau. Donc c'était vraiment pas pour faire de la performance, c'était pour me réfugier, pour avoir une vie à moi. Donc c'était une passion, c'était pas une passion, c'était vraiment une protection, une liberté que je me payais en fait.
Alors ça suppose quand même, vous parliez tout d'un coup de répétiteurs, ça suppose quand même d'avoir un certain niveau de vie pour avoir des répétiteurs à la maison.
Vous savez, j'ai été fabriqué à 100% au Burkina Faso à l'insu de mon plein gré. J'ai rien décidé. Et donc des parents aussi que j'avais, j'ai pas pu décider. Et eux, ils avaient... mon père a été orphelin de père et de mère, il n'a pas connu, on va dire... il n'a pas connu les câlins, les joies de vie en famille. Donc du coup, je pense qu'il nous a éduqués en essayant de nous donner ce qu'il n'a pas eu. Donc lui, il a réussi sa vie, c'était un grand commerçant, mais qui faisait vraiment beaucoup de social parce qu'il avait des orphelinats, nous on ne savait pas. Il aidait les filles mères, ce qu'on appelle des filles mères. C'était à notre époque, nous on ne savait pas ce que c'était, mais voilà, plus on grandissait, plus il nous expliquait un peu que ces enfants qui se mélangeaient un peu à nous, ce n'étaient pas ses enfants. On dit c'est des enfants dont le papa, la maman n'est plus là. Et puis que ces filles, c'est des filles qui ont fait des bébés à 14 ans et qui n'ont personne pour les aider. Donc du coup, on a grandi, c'est vrai, dans le luxe de ne pas manquer de quelque chose qu'on a besoin. C'est-à-dire tout ce qu'on avait besoin, on l'avait. Et lui, il échangeait tous les envies, tous les besoins. Il les avait, il les réglait, mais il ne nous donnait pas d'argent. Donc on voyait de l'argent. On savait qu'il travaillait beaucoup, qu'il avait beaucoup de magasins. Par exemple, l'ancienne marque Bata, c'était lui qui les avait. Des commerces de gros, sucre, lait. On voyait des gros camions qui déchargeaient et puis de l'argent qui circulait. Mais nous, on n'avait pas le droit de toucher. Donc c'était une grosse frustration et on avait peur un jour de se lever et puis on n'a plus à manger. Il nous entretenait aussi dans cet esprit de peur d'avoir pas de l'argent dans les mains et la peur de manquer d'argent. Donc du coup, On se trouvait des stratégies pour avoir tout ce qu'on voulait, les cahiers, les habits. Un short Adidas, quand on l'avait, elle était sacralisée, quoi. Parce qu'on se disait que, bon, ça se trouve, il n'aura plus, parce qu'il nous disait, voilà, bah, vous savez, l'argent, un jour, on peut se lever, on n'a plus, et puis on n'a plus. Donc moi, à chaque fois, je m'inquiète, je sais pas si je pourrais pouvoir vous nourrir le mois qui vient. Donc il nous mettait une... Voilà, mais je pense que tout ça, ça nous a appris à penser autrement, à croire que c'est possible de faire, on va dire, sans les parents. Donc ça c'est vraiment... Il nous donnait ce qui était nécessaire à notre éducation, mais ce n'est pas ce qu'on désirait. Donc la frustration, il nous l'imposait quasiment, quoi. Cette photo, ça renvoie vraiment à ce rapport au temps, et des tontons, des tatas, qui étaient comme des pères et des mères. Parce que on devait écouter et respecter tout le monde. On devait être irréprochable par l'environnement, ce que j'appelle la communauté éducative, qui est l'adulte, qui soit, quoi qu'il fasse, qui est autour de nous. Donc ça, c'était vraiment une... Et c'est ça, cette richesse-là, cette fierté d'avoir eu ce papa et cette maman. La maman, elle était compensatoire. C'est-à-dire qu'elle, c'est tout ce que le père refusait parce qu'il trouvait que le père était austère. Et puis, de toute façon, c'est normal. Là. Il n'a pas connu un papa et une maman. Bon, le pauvre. Donc... Mais mes enfants ne sont pas des orphelins. C'était le contrebalancer un peu. Et on était, donc quand on se retrouve à 3, 4 sur le grand lit, le grand canapé de ma mère, c'est qu'on est tous à sec, quoi. C'est qu'on a été, on a été tous vilipendés par le père. Et là, on se retrouve là, tout content d'être au chaud. On va repartir avec 2-3 sous pour acheter des malabars, se faire des petits plaisirs, quoi, d'enfants, des chocolats, des choses comme ça. Des bonbons à caramel, voilà. C'était vraiment la joie. J'ai connu ça depuis que je suis petit. Rien ne m'a manqué vraiment dans mon éducation. J'ai pas eu quelque chose que j'ai rêvé, que j'ai pas eu. Mais maintenant, tout ce qui est accessoire, c'est vrai que ça, c'est... Voilà. J'ai pas trop connu ça.
18 ans, c'est ça sur la photo?
Oui.
Voilà, c'est ça. 18 ans, c'est un bel âge en même temps. C'est la majorité, c'est le permis de conduire, c'est je sais pas quoi, mais vous c'est bientôt le départ pour la France. Alors c'est quoi cette histoire? Comment ça se fait qu'on se dit, alors que on vit une enfance plutôt heureuse au Burkina et puis qu'on est bien entouré, que tout d'un coup on a envie de s'échapper?
Voilà, en fait il y a eu un événement politique important dans ce pays. Il y a eu une révolution, et cette révolution de Thomas Sankara, qui a donné beaucoup, beaucoup d'avance en termes de vision du monde à toute l'Afrique et au Burkina, parce que cette révolution, nous, on était à fond dans la révolution, parce qu'on croyait qu'effectivement, il fallait arrêter d'investir dans l'immobilier, dans tout ce qui est accessoire, et investir sur l'agriculture, et sur l'humain, parce que le Burkina, c'est quand même un pays enclavé, c'est-à-dire que c'est un pays qui est entouré de pays côtiers. C'est un pays qui n'a pas la mer, donc les hommes doivent être vrais, ils doivent être vraiment les travailleurs pour faire développer le pays. Donc toutes les idées de la révolution, c'était ça, et puis il fallait vraiment valoriser, on va dire, tout ce qui est riche. C'était le coton, il y avait de l'or, le sous-sol était riche, mais c'est surtout, par exemple, tout ce qui était fabriqué au Burkina, valoriser la culture du Burkina Faso. La musique, c'était vraiment, nous on écoutait bien sûr Bob Dylan, Pink Floyd. On était dans toute la musique de l'époque, Michael Jackson, tout ce qui existait, Toto, Salut les copains, ce journal, on le lisait depuis le Burkina, hein. c'était hallucinant. On était acculturés, on était hybride culturel. Et donc, cette révolution du Burkina a tout changé. Donc, mon frère aîné, qui a eu un bac D à l'époque, un bac scientifique, on l'a orienté en langue, en littéraire. Et puis donc, par hasard, j'avais un grand cousin qui a fait des études à Dijon et qui était un conseiller politique à l'ambassade du Burkina à Paris. Donc, de fil en aiguille, donc lui, il a amené mon frère à faire des études à Dijon. Et lui, là, mon frère, finalement, a atterri à Besançon. Et donc, du coup, ben, nous, on était comme des frères siamois. On se parlait, on s'écrivait quasiment. Des fois, je lui écrivais, je mettais la date le 20 juillet 1981. Et lui, le même jour, il m'écrivait aussi une lettre que je recevais et que lui recevait. Et puis, on s'appelait beaucoup. Et les parents, ils en avaient marre.
Et on n'avait pas les SMS à cette époque-là.
Ah ben, il n'y avait pas de SMS. C'était le téléphone, c'est tout. Téléphone et courrier, c'était la poste. Et donc, du coup, voilà, mes parents ont considéré que, vu qu'on était bien, il fallait qu'on se retrouve pour faire notre vie. Donc, et lui, ça le sauvait un peu de la solitude, de la nostalgie, tout ce qu'il m'évoquait dans ses courriers, quoi, dans ses lettres. Et donc, ça, ma venue, c'était surtout lui qui était mon hébergeur, mon appui, mon soutien. C'est lui qui. Tout ce que j'ai réalisé par la suite jusqu'à aujourd'hui, c'est son soutien qui m'a aidé, quoi.
Alors, je profite de ce que vous dites pour qu'on se retrouve dans un tout petit instant au moment où Ali Yougo arrive à Paris pour la première fois. Mais juste avant ça, je propose qu'on écoute Bem Baya Jazz National. Et c'est vous qui avez choisi ce titre. On l'écoute et puis éventuellement, on se dit des choses après.
Pasando yo di ni bala le ma yo di ni bala le ma somo no bala bala ni to ba bokoro ke le rabadula yo di ni bala le ma yo di ni bala le ma somo no bala. Mala malo manyende ke toma Ala talabani na kote bemba toma Si fina saya manye wasaluma Kwe mere la monko mamere te dunye banda ile Ala talabani na kote bemba toma. Doni kunta tiangela, doni doni kuma fanya tunyala, nye kela di a. Thank you. bora ti birindana palla wara kinya batanna palla seni kinya batanna wasaluma palla wara sona fiye masona kuila taban fini fale na jambila kuila taban fini fale na jambila abala Palaka kulunimbeta Palaka kulunimbeta Palawara pagwenika Pala benda bidinimbeti Ile bidinimbe konte diengela Ile bidinimbe kuma fonya tunyela Nyekele di somono balanfa Mala malo manyende ketoma Sifina saya manyembe batoma Yimiri la moko mamirete dunyeba Ala talabali nankote wasaluma Watu nisayalema Nkwalu wafona nifanyeba sando Nkwalu wafona ninkoro nyeba dula Nkwalu ye worokwe tambo wasaluma Kwanu ye worokwe tambo bilahi Kawate moba suluma sanikisi
Alors, Ali Yougo, il arrive en avion du Burkina et pour la première fois, pof, il se pose à Paris. Là, il sort de l'avion et qu'est-ce qui se passe ?
Alors là, je me rappelle comme si c'était hier. Alors, depuis le Burkina, le voyage, c'est... j'étais habillé en belle tenue traditionnelle du Burkina, coton tissé par des dames handicapées qui sont très valorisées au Burkina parce que vraiment, c'est du coton. et que ça leur permet de vivre. Donc j'avais cette tenue, fier de mon Burkina, avec quand même quelques billets CFA, parce que j'avais 500 000 francs CFA. C'est-à-dire que...
ça représente quoi ?
C'était 5 000 francs, anciens francs. Donc on va dire, c'était beaucoup d'argent. Ça fait un mois de course hein, quand je suis arrivé. Donc je suis arrivé ça tout fier. J'arrive à Paris, je me dis là, je vais retrouver mon frère, mais j'imaginais qu'il allait être avec des gens, on allait sympathiser. Donc j'arrive à Paris, la descente d'avion, je vois déjà une multitude d'avions. J'avais jamais vu ça. Je croyais que c'était des oiseaux. Après je me suis dit c'est pas possible. Bon, bien sûr, en décembre il fait pas chaud hein. Parce qu'au Burkina, il faisait 35 degrés. Donc, quand je suis arrivé à Paris, j'ai tout de suite compris hein, que là, il faut arrêter de faire le malin. Donc, j'avais peur même de perdre mes dents par la neige, quoi, parce que bon, il faisait très froid. Et donc, je vois des gens. Après les formalités, j'avais la tête qui. Je regardais dans tous les sens. Bon, là, c'est à la radio, vous ne pouvez pas voir ma tête comme elle tournait.
On peut l'imaginer.
On peut l'imaginer. J'étais vraiment... Je ne comprenais pas. J'avais des gens qui bougeaient dans tous les sens. Ça allait trop vite. En tout cas, depuis mes yeux, c'était impressionnant. Donc, du coup, j'avais l'impression... les voitures allaient vite. Les gens allaient vite. Ils parlaient vite. Je ne comprenais même pas ce que les gens disaient. Parce que je trouvais que c'était trop, trop rapide. Je me suis dit, mais j'ai demandé à mon frère, mais ils vont où ? J'avais l'impression que les gens se donnaient rendez-vous à un endroit et puis il fallait tous se dépêcher pour y arriver.
Après quoi est-ce qu'ils courent ?
Oui, après quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, je me suis dit, ben là, c'est quand même des humains. Donc en fait, j'avais l'impression que c'était des chairs ambulantes, sans tête, sans esprit, sans âme, quoi. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et je me suis dit, là, il faut que je prenne un autre, je change mon logiciel, quoi.
Ça s'appelle un choc culturel, ça ?
Ah, pour moi, c'est vraiment un choc. Et ce choc, c'est comment cette culture-là que j'ai, cette éducation, cette culture que j'ai eue, le temps que je prenais pour dire bonjour aux gens, demander de leurs nouvelles, face à d'autres personnes, à la limite, d'un regard, d'un sourire, ils m'ont dit bonjour et tout va bien. Il faut aller vite. Je me dis, mais pourquoi tout ça ? Donc, je suis resté longtemps à me poser des questions. Et voilà, mon arrivée à Besançon, c'était vraiment... j'ai eu la chance aussi, c'était les périodes de Noël. Donc il y a eu des belles choses à voir, des belles personnes à voir. J'étais dans un cocon quand même, hein, parce que bon voilà, il y avait mon frère qui était là, il avait beaucoup d'amis, on a été à Dijon, il habitait là-bas, à Grenoble, on s'est baladé beaucoup. Mais j'étais constamment face à cette réalité à nouveau dans les bus, dans les transports. Bonjour monsieur, à mon entrée dans le bus, chauffeur de bus qui me sourit, qui me regarde du genre son bonjour, il est trop long. Donc le temps de dire bonjour, ça dure pas longtemps. Mais moi je restais, je le regardais et puis vous allez bien, ça va ? Et ça le convenait pas.
Pourquoi est-ce qu'il prend de mes nouvelles alors qu'on se connaît pas ?
Voilà, on se connaît pas. Donc je m'assois, j'essaie de sourire, de poser mon regard, de sourire aux gens pour entamer une discussion. Mais fermeture automatique, parce que c'est un regard furtif et la personne se reconcentre sur soi, sur elle. Donc voilà, c'est cette culture, j'étais d'emblée. Moi qui pensais que le sport était uniquement la chose qui me permettait de rentrer en contact avec des gens, je me dis là la dimension du sport elle ne sera plus la même parce que bon les gens il faut que j'aille vers les gens avec le sport et comment j'allais faire pour vivre avec le sport avec des gens qui étaient relativement qui voulaient aller vite et puis moi je pensais que c'était pas la bonne manière. Donc très très enrichissant cette arrivée en France. Cette nouvelle culture qui s'imposait à moi, c'était à moi de choisir. Est-ce que je m'adapte ou bien je me renferme ? Donc il fallait faire des choix. Mmh. Et ce choix-là, c'est au quotidien, c'est tous les jours qu'il faut se remodeler. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis bien content de cette ouverture culturelle et cet hybridisme. Cette acculturation qui permet vraiment d'être soi finalement quoi, tous les jours.
Sur le tatami, c'était aussi un choc culturel ou bien il y avait une pratique du karaté du coup, qui était un peu identique à ce que vous avez connu au Burkina ?
Oui, le sport c'était aussi une adaptation culturelle parce que le karaté c'était on était plus dans les films de Bruce Lee, la vision Shaolin du karaté en Afrique et puis le respect absolu de celui qui a même une séance de plus que toi, parce qu'il était ancien. Et puis, la façon de s'allier en karaté, c'est bien sûr le plus gradé, il est toujours à droite. Et quand tu croisais un ancien, tu devais le saluer en premier. C'était les traditions du karaté telles que moi je les ai apprises au Burkina. Bah, y a aussi le mélange de la culture africaine qui fait que c'était très dense hein, au niveau du respect. Donc voilà, le choc aussi était là. Hein. Donc j'arrivais, j'étais ceinture noire. Il y avait des tout petits qui couraient, qui me tapotaient. Salut, ça va Ali ? Je dis, mais attendez, ils n'ont même pas salué le maître. Tu n'as pas salué le maître ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc petit à petit, j'ai dilué un peu ma vie martienne. D'art martien, bon, et je me suis réadapté et j'ai compris que vraiment, voilà, c'est toutes ces façons de vivre, on peut être respectueux, voilà, sans être vraiment dogmatique, et donc je me suis réadapté ouais, à la pratique, hein. Tout est une question de compréhension, pourquoi les gens font ça, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas une éducation martiale, des arts martiaux. On peut pratiquer le sport sans pratiquer l'art martial. Et j'ai découvert ça en France, puisqu'en Afrique, tu prends tout bah, ou tu ne fais pas. Tu dois connaître les arts martiaux, l'esprit budo, l'esprit du samouraï, tu dois l'apprendre. On l'apprend très tôt, parce que c'est comme ça les arts martiaux. Alors que, bon, après, quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à pratiquer ce sport à Planoise avec mon frère. Je me suis rendu compte que, alors non, la culture européenne, ce n'est pas ça. Le karaté européen, il y a le sport sans les arts martiaux et il y a même le sport pour se défendre uniquement, pour comprendre les moyens de self-défense, le sport pour être bien, le sport pour soigner une maladie. Ben, tout ça, ça existe quoi. Et c'est vraiment une variété de pratiques d'entrée dans les arts martiaux que je ne connaissais pas. Le sport dans les milieu carcéral, je ne savais pas que ça existait, le sport ciblé pour les femmes, le sport ciblé pour les personnes âgées. Bon, donc voilà, c'est petit à petit, j'ai appris qu'effectivement, on ne peut pas rester que dans l'esprit pur et dur. Karaté pur et dur, c'est pur et dur, ça n'existe pas en fait. Donc oui, j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup appris que dans les territoires dits difficiles, où il y a des îlots sensibles, il faut aussi s'adapter. Et ne pas considérer les jeunes, les gens qui viennent pratiquer comme des gens qui viennent pour une coupe ou une médaille, parce que, en plus que la médaille, c'est de la ferraille, quoi. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Donc, du coup, il faut vraiment ouvrir et voir les pratiquants, tout ce qui est dans la périphérie du sport, le bien-être, la joie, la convivialité, et les difficultés des gens. Il y a des gens qui viennent faire du sport parce qu'ils ont des difficultés familiales, parce qu'ils veulent rencontrer des gens, ils sont peut-être à la recherche de ce qu'on appelle la double parenté, ce qu'on appelle la coéducation. Et même des fois, il y a des couples papa-maman qui amènent l'enfant pour faire du sport. Et puis, moi, avec ma petite expérience, je me rends finalement compte que non, ce n'est pas du sport. Et que finalement, l'enfant, ce n'est pas que du sport qu'il veut, parce que le couple n'est plus vraiment. Ça fait longtemps que le couple n'est pas un couple.
Et là, vous êtes dans la médiation alors ?
Dans la médiation. Et je me suis retrouvé du but en blanc. Médiateur, éducateur, enfin voilà. Et donc du coup, bon, là aussi, il faut se remodeler, s'accepter, sortir de son cadre et dire, ah, effectivement, si l'enfant me dit que ah ben mon papa, en fait, ils vivent pas ensemble parce que mon papa, ça fait longtemps qu'il dort dans le canapé et puis il se parle plus. Donc ça pose d'autres problèmes. Donc quand je donne une information, quand je donne une info au père, ça n'arrive pas à l'enfant. Par exemple, demain, venez avec une banane, une bouteille d'eau, parce qu'on va faire un entraînement. Bah, quand je dis au père, bah, l'enfant, il vient le lendemain, il n'est pas au courant. Donc du coup, c'est beaucoup plus complexe, on va dire, le sport. Et c'est là où la culture a toute sa place.
Et là, on vient de faire un petit bond dans le temps, puisqu'on l'a peut-être pressenti, ou en tout cas découvert dans vos propos, mais vous êtes entraîneur de karaté. Et vous avez un dojo alors, vous pratiquez où ?
On pratique ce sport, donc je suis entraîneur de karaté depuis mon arrivée, parce que finalement j'apprenais en même temps que j'apprenais. Je m'entraînais et puis j'aidais, c'était un peu la politique de ce club dans le quartier de Planoise, qui est vraiment, pour moi, un des meilleurs quartiers de Besançon, mais ça n'engage que moi.
C'est vrai.
Et donc il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, j'ai beaucoup investi dans ce quartier parce que j'y crois jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce karaté que je fais dans ce quartier, j'enseigne, c'est vrai, mais pas que. Je pratique accessoirement et j'écoute beaucoup les gens. Et ça a été un reproche qu'on m'a fait depuis longtemps. Mais plus le temps avance, plus les personnes qui m'ont reproché me disent « Ah, finalement, Ali, t'as raison. » Ça veut dire que finalement, on ne peut pas se contenter de considérer des territoires quand ça brûle, quand ça ne va pas, ou quand il y a des élections. On doit vraiment être présent sur la dimension du quotidien avec ces gens et les considérer. Parce que aussi, faire de la politique, c'est quand même, pour moi, c'est très simple, c'est vivre avec les gens. Donc moi, je fais la politique de ma petite famille, je vis avec mes enfants, je vis avec mon association, je vis avec mes amis. Ben voilà, c'est une politique à mon niveau de vie nucléique. Une association culturelle, c'est pareil, hein, elle fait de la politique parce qu'elle vit avec les gens, elle fait vivre les gens, elle vit, elle est une photocopie. Donc l'association dans laquelle je suis, elle est une photocopie de la population du territoire, qui fait que, effectivement, mon idée du karaté, c'est du karaté, je dirais, à vocation sociale. Je m'étais battu d'ailleurs pour Caplanoise et on puisse créer une salle de sport à vocation sociale. Et la pratique de cette association où je suis, c'est vraiment cette vision qui consiste à donner de la place aux non-passionnés, aux non-pratiquants d'arts martiaux, à l'habitant lambda qui veut faire ce sport-là, pour rencontrer du monde et pour vivre avec les gens. Ça me semble essentiel. On ne peut pas faire sans qu'il y ait de la vie. Et c'est censé être bien, parce que la vie, finalement, c'est être bien pour moi. Si on n'est pas bien, l'instinct de vie, qu'est-ce qu'on en fait ? On arrive au monde avec un cri. Ce cri-là, c'est la joie d'être là. On est en vie. Donc il faut du mouvement, il faut vivre avec les gens. Et tout ce qu'on fait, si on fait sans les gens, si on fait tout seul en général, c'est pas intéressant.
C'est vrai. Et dans très peu de temps, on va passer à un sujet qui nous intéresse beaucoup, nous, dans cette émission-là. C'est c'est pas très concept, mais c'est quand même une façon de regarder le sport et de le mettre en relation avec la culture et avec le reste du monde. Vous répondrez à ça juste après une toute petite douceur musicale, parce qu'après tout, on en a bien le droit aussi.
Ah oui.
Kana wasa ona kana wanjabi kana wade kani.
96.9.
Sur la table, monsieur Hugo, vous avez déposé un objet en plastique que si je l'ouvre d'ailleurs et que si je le sens, je pourrais le raconter, mais le mieux c'est que ce soit vous. Qu'est-ce que vous avez amené et pourquoi ce...
Je commence par le sentir.
Oui, je vous en prie.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle du beurre de karité. Qui vient du Burkina Faso, mais bon, toute l'Afrique de l'Ouest, on peut en trouver. Alors, le karité, il vient d'un fruit qui est un karitier. Donc, le karité, c'est déjà un fruit qui se mange partout en Afrique. Et ce beurre de karité, il semble que les grosses industries qui traitent la peau, ils vont le chercher en Afrique pour le mettre dans tous les produits de la peau.
Ah, tous les produits dermato, quoi.
Oui, dermato. Ouais. Donc, c'est un produit qui est bien connu par les pharmacies, par les gens qui sont dans l'économie de cosmétique, orientée sur la peau. Et nous, quand je dis nous, c'est en Afrique. En Afrique, les parents, les familles s'en servent depuis la naissance jusqu'à la petite enfance de l'enfant. C'est-à-dire que, en fait, c'est
pour faire quoi avec alors ?
Alors c'est pour, alors ça sert à soigner toutes les fissures de peau. Ça soigne, ils massent les bébés avec. C'est un massage traditionnel que peut-être on a perdu dans le monde moderne.
Vous avez été massé à l'huile de karité, d'accord ?
Moi, j'ai été massé à l'huile de karité et souvent
mes enfants. C'est ce qui vous fait ce teint un peu hâlé.
Voilà. Alors, mes enfants me disent, tout le monde me dit, vous avez la peau douce, machin. Mais ça vient de ça. Ça vient de le beurre de karité. Et derrière le beurre de karité, il y a le beurre de karité, on va dire cosmétique pour la peau, et le beurre de karité qui se cuisine.
Donc, ah.
Ça renvoie au palais.
Et c'est là où il y a la petite Madeleine de Proust quand vous ouvrez le pot de beurre.
Et d'accord. Cette odeur, ça renvoie à ce qu'on est quand on arrive au monde. On arrive tout nu, avec rien. Et après, ça ne va plus parce qu'on a plein de choses qui nous manquent. Ah oui, la météo, ça ne va plus. Alors qu'on arrive tout nu, on ne sait même pas quel temps il fait quand on arrive. Donc ça me renvoie vers ça et que, bien sûr, cette modestie qu'on devrait avoir dans la vie, parce qu'effectivement, on n'est fait que de peau, quoi. De peau et d'eau. Et voilà, après, il faut que chacun sauve sa peau. Sauver sa peau, c'est au quotidien. Gagner son pain, c'est aussi sauver sa peau. Et vivre, tout ça, c'est sauver sa peau. Et c'est ça toute la question du lien entre le sport et de la culture. Parce que on fait du sport, mais en réalité, le sport, c'est un être humain qui fait du sport. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas sauver l'être en priorité? Et après, avoir un être sportif, un être culturel. Donc, on ne peut pas oublier cette base qui consiste à veiller à ce qu'il y ait une cohésion naturelle de la vie. C'est-à-dire être bien dans la nature, dans son environnement. Ne pas s'inventer des artifices. Donc, le beurre de karité, c'est aussi ça. Et peut-être qu'il peut être, il pue à l'état nature, mais... Il est très, très, très sale. Il sauve vraiment la peau. Il sauve la peau. Parce qu'il renforce la peau. Le derme est bien solide. Et on peut vivre longtemps si on a de la chance avec.
C'est grâce à ça que vous avez conceptualisé un peu votre relation au sport et au reste du monde. Parce que vous avez des concepts ou des principes, je ne sais pas comment les appeler. En tout cas, il paraît que vous en avez trois. C'est ce qui se dit dans les milieux bien informés. Il paraît qu'on parle de, chez vous, de mode anticonsommation, d'ouverture et de fermeture. Je n'ai pas, j'ai pas tout compris. Vous pouvez m'expliquer ça?
Alors, effectivement, même moi, je n'ai pas tout compris aussi, mais je m'explique. Je me l'explique tout le temps parce qu'effectivement, effectivement, quand on, on croit à des choses, il faut vivre ces choses-là tout le temps. Et ces modèles, c'est le premier modèle, il est tout simple. Moi, je l'ai appelé l'anticonsommation. À l'intérieur de ce modèle, je mets la pratique du sport, la pratique de la culture, quelqu'un qui fait de la guitare, de la danse, qui chante, qui joue avec les mots, qui fabrique des mots, et celui qui fabrique aussi son corps, parce que le sport, c'est aussi remodeler son sport, son corps. Le sport, c'est comme de la pâte à modeler qu'on projette sur son corps. Donc c'est pareil que le peintre, voilà. Effectivement, le lien, il est très simple. Pour moi, celui qui s'inscrit dans ce modèle, je pense qu'il se suffit tout seul pour vivre et pour réussir et pour avancer. C'est-à-dire que ça va l'éviter de rester à ne rien faire et à dire « Ah ben j'ai rien, on fait rien pour moi, c'est la faute. Ah ben oui, c'est la faute à un tel, à une telle, on m'a pas donné. Et même c'est la faute à mes parents. » Effectivement, oui. Mais je pense que quand on est grand, on peut se souvenir que ça fait longtemps qu'on n'est plus dans le ventre de sa maman, quoi. Donc, après, qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on est sorti de ce ventre-là? Donc, si on fait des choses, on est dans l'anticonsommation. Et ce modèle est très enrichissant parce qu'on peut mettre beaucoup de choses dedans et ça permet d'éviter de se faire mal avec des gadgets nouveaux ou anciens qui peuvent nous rendre addictifs. Donc, je pense aux jeux vidéo et tout ça. Il y a du positif dans les jeux vidéo, il y a du positif dans tout. Mais je pense que quand on le fait, dans l'anticonsommation, on partage aussi avec des gens, puisqu'on ne le fait pas tout seul. Le deuxième modèle, c'est ce que j'appelle l'ouverture dans l'enfermement. C'est les prisons qu'on se fait même dans nos esprits en disant « Ah oui, moi, voilà, je suis un grand champion. » Ah ben, je dois rester champion, je dois kiffer la life, avoir des beaux muscles, beau corps, intelligent. Je dois rester dans ça. Effectivement, ça peut être un enfermement. C'est aussi...
C'est l'étiquette, quoi.
C'est l'étiquette. C'est aussi, je suis né dans ce quartier, je ne bouge pas de là, je ne vais pas faire un stage au centre-ville parce que je suis né, j'ai grandi à Planoise. Et Planoise, c'est vraiment mon paradis et le centre-ville. Ah,
c'est l'étranger.
Ah, c'est l'étranger, c'est la prison. Donc ça veut dire que forcément, si on est enfermé, si on est collé, on va dire au lieu qu'on a choisi et puis qu'on ne bouge pas et puis qu'on est enfermé, on se fait soi-même une prison. On est naturellement enfermé. Et effectivement, ce modèle aussi de l'ouverture dans l'enfermement, c'est ouvrir cet enfermement. Et c'est aussi le jeune ou l'enfant ou la personne qui dévie, qui va contre la loi. Parce qu'effectivement, quand tu es dans les incivilités, ça commence par quoi? Quand on prend ce que j'appelle le schéma moteur d'une incivilité, c'est peut-être l'enfant, l'ado qui est à l'école, qui est normal, qui est comme tout le monde, qui pourrait apprendre, mais qui se met au fond de la classe et qui balance des choses au professeur, au maître, qui chahute, qui met à mal l'autorité éducative. Et donc, ça veut dire que ce jeune-là, déjà, il construit un enfermement. Il s'enferme. Et cet enfermement-là, donc l'ouverture dans l'enfermement dans ce modèle, c'est d'amener ce jeune à se rendre compte que s'il va tout droit dans ce chemin-là, s'il continue, il va se retrouver peut-être dans un endroit où la serrure, elle est à l'extérieur. Bon, qui n'est pas vraiment l'endroit de liberté. Et c'est aussi l'endroit où on est réduit à l'état d'animal, parce que la prison, c'est aussi ça. Hein. Donc la prison, symboliquement, avec la serrure qui est à l'extérieur, où il y a le maton qui vient, tu deviens un peu, qui te crée des réflexes de Pavlov, puisqu'en fait, tu entends le bruit de son trousseau de clés, tu bouges, tu dis, ça y est, un peu comme un
tout. On vient me chercher.
On vient me chercher, je vais bouger, je vais pouvoir sortir, promenade. Bref, donc ça peut être cette prison physique, mais ça peut être une prison symbolique. Quelqu'un qui est vraiment enfermé dans sa tête, qui croit qu'il doit pas faire autre chose. Il doit rester informaticien. Et chez lui, tout le monde doit faire de l'informatique. Donc voilà, deuxième concept.
Et tout le monde le reconnaît comme étant informaticien.
Oui, on le reconnaît.
Et on le veut comme ça et pas autrement.
Et le regard des gens, on le voit comme ça. Et lui, il ne s'imagine pas une autre vie. Et ça bouffe même son entourage, sa famille. Et alors que la famille, c'est là où c'est quand même la jouissance de vie naturelle. Et si tu pourris ce lieu de jouissance par le cadre dans lequel on t'a mis, par le regard des gens, ça veut dire que tu t'es enfermé, tu t'es tué tout seul. Donc du coup, ça me renvoie vers le troisième modèle qui est le modèle l'ouverture au monde. Je souris quand je pense à ce modèle parce qu'effectivement, ce modèle-là, c'est ce que j'appelle un ailleurs meilleur. C'est-à-dire que si j'ai tout essayé dans ma vie, si tout le monde ne m'aime pas, si je suis vraiment bien, on m'a enfermé, j'ai l'étiquette de quelqu'un qui est très fort dans la politique, qui est très fort dans le sport, qui est très fort dans la culture, je suis un grand musicien. À un moment donné, on me dit, il y en a marre, il faut faire quelque chose, ça ne va plus. Alors que tout le monde me trouve bien. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est peut-être aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs, ça peut être aller dans un autre territoire, dans une autre ville, rencontrer des gens qui sont à mon opposé. Peut-être ces gens-là vont me renvoyer un beau message qui est de vivre, voir que la misère ailleurs, elle est peut-être pire, ou bien elle est peut-être pareille, ou bien qu'elle existe aussi ailleurs.
Alors vous, d'une certaine façon, vous avez un peu traverser ça. Alors, c'était pas question de misère, mais je reviens au petit choc culturel qui a eu lieu à votre descente de l'avion. En tout cas, vous l'ailleurs, vous êtes allé le fréquenter et vous pouvez en parler aujourd'hui. C'est pour ça que vous le mettez dans votre pratique aussi.
Justement, cet ailleurs, je l'ai vécu tout le temps et je l'ai vécu durant mon parcours, quand j'ai fait l'école de commerce à Vesoul.
Voilà, Vesoul. Frotter les Vesoul.
Frotter les Vesoul. J'avais FJT Frotter les Vesoul. J'avais ma chambre là. J'ai navigué à Fougerolles, à Saint-Loup-sur-Somousse, tous ces endroits où c'est la haute Saône profonde. Là aussi je suis arrivé là.
Ouais, c'était un peu improbable pour un petit gars du Burkina, quoi.
Ah oui, et en plus j'étais byzantin, mais il n'y a que moi qui savais que j'étais byzantin. Donc quand je disais que je venais de Besançon, on me disait c'est pas vrai, vous êtes de Besançon.
Comment ça se fait ? Monsieur, vous avez la peau noire, enfin.
Comment ça se fait, monsieur ? Donc du coup. Permis de conduire, j'ai une voiture, Opel Escort de l'époque. J'avais cette voiture qui m'amenait, qui me déplaçait. Mais en fait, quand je conduisais, je regardais pas le chemin. Hein, je regardais l'aiguille du carburant parce que c'était les temps de disette. Hein, c'était pas évident. Donc du coup, les gens, les Hauts-de-Saônois me voyaient avec la voiture et ils comprenaient pas que je conduisais. Donc il fallait que je m'explique. Mais ce choc culturel, je l'ai bien vécu. Pourquoi ? Parce que je me disais, ça me faisait le même effet quand j'avais des Français au Burkina avec lesquels on allait dans les villages. Parce que j'ai eu l'occasion de vivre ces expériences. Les villageois en Afrique avaient quasiment la même réaction. À quelques variantes près, ça me permettait de dire, c'est l'ignorance, le manque d'ouverture. Donc j'étais constamment... rassuré que ces personnes qui avaient des élans de racisme, des choses qui pouvaient énerver beaucoup de gens, moi je ne le percevais pas comme du racisme. C'était des personnes qui voyaient la première fois un noir, un étudiant instruit, qui parle français, et voilà, c'était vraiment à nouveau un choc culturel. Et c'est toujours ce même choc que les gens refusent d'accepter. Quand quelque chose de différent arrive, ça fait forcément un choc.
Il y a une notion à la fois de curiosité et d'effort pour aller vers l'autre.
Cet effort, c'est bien sûr aussi, on le retrouve dans le sport, la relation à l'effort. Si on n'est pas prêt à se dire, moi, c'est la première fois que je vois ce monsieur et c'est la première fois qu'il me voit, sans tenir compte des couleurs de peau, et qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? La question, elle est là. On est toujours dans se mettre dans un modèle de vie, de faire ensemble. Donc, à partir du moment où cet effort, cette question ne se pose pas, qu'est-ce qui nous reste ? C'est un mur entre nous. Donc ça, la solution pour moi à cette question de rejet, de préjugé, c'est, j'ai un alter ego en face de moi, j'ai un humain en face de moi, comment il sourit, comment il rit, finalement, on essaie de se considérer comme on était à l'origine. Il ne faut pas qu'on oublie.
Et finalement, qu'on soit dans une conversation ou bien sur un tatami, l'autre en face, c'est quelqu'un d'important.
Effectivement, quand on le pince, il a mal. Et quand on dit quelque chose de rigolo, ça lui fait rire. Donc à partir de là, faisons des choses ensemble et construisons. Parce que le temps qui nous est donné, c'est pas un temps infini. Nous, on est vraiment petitement, on finit. Mais le temps, il est grandement infini, quoi qu'on fasse. Puisque le temps, nous, on ne verra pas le temps s'arrêter. Hein. Je suis pas sûr.
Et nous, le temps, on l'a déjà presque dépassé. Et je propose, Monsieur Ali Hugo, que ce soit sur ces paroles qu'on termine notre échange, parce que je crois qu'on peut réfléchir là-dessus, comme qui dirait. Mais vraiment réfléchir là-dessus, sur ces dernières répliques-là que vous venez de nous offrir, sur un plateau, je dirais. Merci beaucoup.
Merci.
À très bientôt. Pas sur un tatami, en tout cas pas avec moi.
Peut-être. À vous, merci. Mais le tatami, c'est sans kimono. Hein, c'est
avec possible. Plein d'amis. Pas de tatami, mais plein d'amis.
Merci. Merci beaucoup.
À bientôt, Ali.
Au revoir.